Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 138e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h avec une sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Faskil.
Est-ce que ça va bien?
Eh bien oui, évidemment, comme toutes les semaines. Car le podcast, c'est la vie. C'est ce qui nous fait avancer dans la vie en ce moment.
C'est ça.
Putain, les mecs, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. On a un sommaire de ouf. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle.
On va parler gaming, app culture et tech. Et on va commencer avec le gaming. Puisqu'on en parlait il y a quoi, une semaine, deux semaines, je sais plus. Crucible, apparemment.
Ouais. Je vois la conduite, on a un sommaire pour le gaming, les enfants. En fait, alors il y avait un jeu potentiellement dont je voulais faire le test, mais je n'ai pas eu le temps d'y jouer assez, donc je vais fermer ma bouche. Mais Crucible, on en a parlé plein de fois en fait sur Geekzone, que ce soit en podcast, on avait même fait une news sur les nouveaux jeux Amazon du Amazon
exact.
Studio. Et je vous avais annoncé quand j'avais fait le petit test de la version qui était sortie que c'était quand même pas magique. Eh ben, j'étais pas le seul à le penser, a priori, puisque, en fait, le titre a atteint un tel niveau de flop qu'ils ont décidé de le remettre en bêta fermée. Et ça, c'est un move qu'on ne voit pas souvent, les amis. Tu sors ton jeu, les gens font « nope », et donc là, tu fais « non, on déconne, attendez, bougez pas, oulala, nous, on voulait le sortir pendant le confinement, donc on s'est un petit peu précipité, alors on va revenir en arrière, on va faire les modifications en écoutant la communauté et en nous mettant en symbiose avec elle. » Donc là, évidemment, faut chier tu as des gros trucs marketing pour justifier le move, pour essayer de faire des changements et ressortir le jeu. En tout cas, ça, c'est ce qui est annoncé sur le papier. Je vous ai linké dans la news qui accompagne le podcast le mot officiel des gens d'Amazon Studio. Alors, il faut savoir que c'est pas la première fois qu'ils font ça, en fait. Ils l'ont déjà fait pour Breakaway.
D'accord.
Qui est revenu avec un grand succès, comme tout le monde le sait. Et là, je te sens, genre, est-ce qu'il dit de la... Non, on l'a jamais...
J'étais en train de me dire, voilà. Breakaway, on pense bien à la même chose, quand même.
Alors, tu vois, c'est comme une blonde dans une série télé que tu aimes beaucoup. Non, on l'a pas vu, en fait. Hein. Y a beaucoup de gens qui le cherchent, là, peut-être, mais on l'a jamais revu. Donc, pour l'instant, écoute, le sort et le destin de Crucible est dans les mains des décisionnaires de chez Amazon. Mais bon, entre nous, hein, on est vraiment en petit cercle fermé dans ton salon, comme d'habitude.
C'est ça.
Franchement, à moins d'un miracle, je le vois pas revenir. En tout cas, je le vois pas revenir avec une idée qui fasse que d'un coup, d'un seul, tout le monde a envie d'arrêter de jouer, quel que soit le titre du moment.
Fortnite.
Pour passer dessus, ouais, Fortnite, les Apex, les machins. Enfin, tu vois, il y a déjà des gens qui sont très installés sur ce type de jeu et je ne vois pas comment ils vont réussir à s'implanter parce que bah, il a rien de merveilleux. Et c'est pas le seul à être dans les limbes comme ça du free-to-play avec des moteurs 3D plutôt jolis, des idées un petit peu par-ci par-là intéressantes, mais il n'y a pas de la mayonnaise prend pas. Je ne vous cache pas que je pense que vu combien ça coûte de développer et de maintenir des équipes de développement pour soutenir ce genre de projet, je doute que si les gars insistent très très longtemps, nous verrons bien.
Ça se passe pas très bien côté jeux vidéo pour Amazon en ce moment.
Non.
On va se moquer d'autres développeurs aujourd'hui, puisqu'on va parler de nos amis de Crytek.
Ouais, se moquer, c'est pas très gentil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Crytek? Il s'est passé qu'il y a eu une fuite, un leak, comme on dit, et il y a un trailer qui est sorti de Crysis Remastered. Alors, déjà, la première question, c'est pourquoi refaire remaster de Crysis? Je parle de la version 2007, qui était pas la plus passionnante de la série, mais bon, voilà, 2007, les mecs se sont dit 13 ans après, ils ont oublié, on va leur revendre un truc qui en met plein la gueule, ça va être super joli. Sauf que non. Sauf que c'était plutôt moche et que les gens sur Internet l'ont fait savoir, c'est-à-dire que quand t'as un leak qui sort d'un trailer comme ça, bon bah, généralement, tu vois, t'assumes derrière en disant oui, on va sortir ce truc-là, etc. Non, ce qui s'est passé, là, c'est encore beaucoup plus drôle, c'est que tout le monde a fait genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette énorme bouse?
C'est du fan-made.
C'est voilà, mais c'est moche, c'est un fake, qu'est-ce qui se passe? Et donc, les mecs ont fait genre, non, on voulait vraiment sortir un remaster, pardon? Et bah, on va le retarder, alors. Donc, non seulement ils ont été obligés de dire que oui, effectivement, ils bossaient sur ce truc-là, qui honnêtement ne fait pas vibrer les foules, mais en plus ils ont été obligés de remballer dans les cartons alors qu'ils n'avaient pas vraiment sorti pour dire non, alors en fait finalement ce qui va se passer c'est qu'on va revenir et il sera vraiment joli. Ce à quoi j'ai du mal à accrocher comme version, puisque je vous rappelle que c'est un truc qui doit sortir sur PS4, Windows, PC évidemment, Xbox One, mais aussi Switch. Ouais. Donc bon, la Switch, j'aime beaucoup, hein, très bonne machine, très sympa, tout ce que vous voulez, mais c'est pas vraiment un truc pour faire tourner Crysis, tu vois, c'est pas le but du jeu.
C'est pas un engin de guerre, ouais.
Voilà, je vous rappelle que Crysis, la vanne depuis 2007, c'est de dire, très bien, c'est puissant, mais est-ce que ça fait tourner Crysis, tu vois, c'était ça la grosse vanne pendant des années, c'était un peu l'étendard de ce que pouvait faire une carte graphique, alors évidemment, hein, de l'eau coulée sous les ponts depuis, mais s'ils veulent en mettre plein la vue, puisque c'est à peu près le seul truc intéressant sur le jeu, enfin, au niveau du gameplay, etc., on était pas sur un truc extraordinaire non plus. Je vois pas comment ils vont faire en 2020, voire 2021, on ne sait pas du coup, pour impressionner les foules. Mais on va suivre ça de près, en tout cas en ce moment, en termes de communication, il y a des gens qui ont des problèmes.
Et on va reparler de nos petits verres adorés, puisqu'on avait déjà parlé du retour des Worms dans Torréfaction 123. C'est même toi qui en avais parlé d'ailleurs, ça avait l'air de t'avoir bien emballé.
Moi j'aime bien, tu vois, aller des Worms, pas très mal. Quand tu parles de verre, au début j'ai eu peur, hein, j'ai cru que tu parlais de maladie et tout. Je fais,
non,
mon dieu, de quoi il parle, qu'est-ce qui se passe, mais ouais, Worms Rumble, on attendait des informations.
Et ben on en a, et donc effectivement, Team 17, pardon, prépare bien un nouvel épisode de la saga, il y a un trailer qui est tombé, il s'agira donc, accroche-toi, d'un Battle Royale.
Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, pas du tout en retard.
Alors on passe du coup de la stratégie au tour par tour à un jeu d'action en temps réel, donc forcément bah, il va y avoir un changement de gameplay, de dynamique, et je suis pas convaincu que ça réussisse à la saga. Il y avait déjà eu une tentative d'en faire un truc vaguement action de mémoire, un Worms 3D à l'époque, et c'était pas génial. Donc je suis un peu sceptique, c'est annoncé comme Game as a Service, donc a priori avec un long suivi sur la durée, et sans surprise, donc à l'intérieur du jeu, il y aura un système de progression pour débloquer des items, a priori uniquement cosmétiques, on verra si c'est le cas. Ils ont annoncé donc du Deathmatch à deux, mais aussi donc du Last Worm Standing, qui sera donc la version solo du Battle Royale, et Last Squad Standing pour la version avec des équipes de 3 joueurs, avec évidemment un système de zone bah, comme dans les Battle Royale, quoi. Alors il y a une bêta du 15 au 20 juillet sur Steam, bêta fermée, on peut s'inscrire via le formulaire que je linkerai dans le billet qui accompagne ce podcast, et le jeu est prévu pour sa part pour une sortie fin de l'année. Donc voilà, je suis assez sceptique. Ce qui marche bien dans les Worms d'habitude, c'est le côté justement tour par tour où tu planifies un peu tes sales coups. En faire un truc d'action et en plus pomper sur les Battle Royale, je suis pas vraiment vendu à la cause, comme on dit. On va parler de nos amis d'Ubisoft.
Oui, qui normalement sont censés annoncer hier pour vous, aujourd'hui et plus tard pour nous, un nouveau jeu. Donc du coup, on vous en parle pas, on vous parle de la rumeur. Donc je sais, ça, c'est un concept un peu spécifique, mais ne pas en parler là, c'est un peu pénible. Vu que comme on est sur une session gaming où j'avoue, on se moque un peu. Donc ils annonceraient une nouveauté, c'est-à-dire un Battle Royale aussi. Je sais pas, tu vois, c'est marrant, je crois que tu viens de prononcer ce mot. Donc c'est assez chaud.
Les gars, sérieux, quoi.
Ils sont pas du tout en retard. Alors, évidemment, je vous link une petite news qui sera périmée au moment où vous écouterez ce podcast. Et on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs pour savoir s'il y en avait que 7 déjà. Le titre, ça serait Hyperscape, qui serait annoncé au moment où, dans la soirée du moment où on enregistre ce podcast. Donc, si vous l'écoutez vendredi, ben, c'était peut-être annoncé hier soir, ou peut-être pas, on sait pas. Parce que les priorités d'Ubisoft cette semaine, à mon avis, ont été peut-être un peu chamboulées. Donc,
oui.
Voilà. Je suis pas persuadé qu'ils aient super envie de parler d'Hyperscape. Le truc qui a été intéressant dedans, c'est de faire un Battle Royale, en fait, où les gens sont ultra impliqués, non pas parce qu'ils sont en train de jouer, mais parce qu'ils sont en train de regarder le stream. Donc, il y a une intégration avec Twitch qui serait assez poussée. Le but du jeu étant de pouvoir balancer des items sur la carte et de pouvoir influencer sur le développement de la partie en étant simplement spectateur, entre guillemets. Mmh. Puisque là, du coup, vous passez du statut de spectateur au statut de je peux modifier les choses dans le jeu. Ça serait pas la première fois qu'on voit ça, il y a d'autres titres qui l'ont déjà fait, mais là ça ferait vraiment partie intégrante de l'idée. On n'a pas trop d'infos à part ça. Il y a un pauvre screenshot qui s'est baladé, qui vendait pas du rêve, mais on n'a rien vu, donc maintenant on va fermer nos bouches et on attendra la semaine prochaine pour voir si ça a été annoncé et si on a des choses à redire là-dessus, et si c'est vraiment un Battle Royale et si c'est vraiment entre Apex et compagnie. J'espère que le gameplay est vraiment 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 bien, parce que bah, y a du monde sur le créneau, comme on disait tout à l'heure, et
sans déconner,
voilà. Et bon, les dernières expériences d'Ubisoft, coucou Ghost Recon Breakpoint, n'ont pas été extraordinaires, donc il y a un moment il faudra quand même sortir des vrais jeux et que ça s'appelle pas Assassin's Creed ou des choses comme ça. Voilà,
et on termine cette section gaming avec un petit rappel pour ceux qui ont la CB qui chauffe.
Ah oui, parce que les promos Steam sont ouvertes, voilà. Donc évidemment, vous le savez, puisque si vous lancez Steam, vous êtes agressé direct dans le shop par « Hey, salut, c'est l'heure ». Mais je vous rappelle évidemment, hein, le message de service. Votre backlog n'est pas terminé, je le sais. N'essayez pas de nier, c'est faux. Mais en même temps, bon bah voilà, il y a des promos où on se dit « au cas où, je vais le mettre pour la collecte, tu vois, je vais le prendre ». Et j'avoue qu'il y a des petits, tu vois, des vieux titres, des Is Chronicles que j'avais pas encore, des trucs, mais c'est 4€, tu te dis, bah, je vais le prendre, j'y jouerai jamais, alors j'essaye de me raisonner. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on est avec vous dans cette épreuve, et ouais. Soyez forts, et vous allez voir, il y a quand même 2-3 promos intéressantes, je suis désolé, pardon.
Il y a un très très bon comics de Control L Delete qui est sorti sur le sujet, je sais pas si tu l'as vu.
Si, passer, si, je l'ai vu passer.
Voilà, avec un mec qui dit, non, cette fois-ci, j'ai bouclier ultime et tout, et sur son bouclier il est marqué pas assez de temps libre, et il se fait transpercer à la fin par une espèce de gigantesque épée où il est marqué oui mais bon c'est quand même pas cher et peut-être qu'un jour j'y jouerai.
C'est la collecte.
Exactement nos vies.
C'est ça.
Allez, on passe du côté des apps avec Discord.
Discord qui est en train de changer son petit positionnement, ça m'a beaucoup fait rire, donc je me suis dit que j'allais en parler dans Discord, on le présente plus, hein. Parce qu'en fait Discord gagne plein d'argent et vient d'être valorisé à 3,5 milliards, donc évidemment, c'est beaucoup de brousouf. Comment ça se fait ? En fait, ils viennent de lever 100 millions de dollars de plus par rapport à ce qu'ils avaient déjà. En fait, ils sont en train de mettre sous le tapis toute leur activité gaming, puisque c'était rigolo, les gamers, 2 minutes. Mais tout le monde est en train de se rendre compte que, un truc qui permet de parler, d'envoyer du texte, de partager son écran, etc., c'est quand même pas mal pour travailler aussi. Ils sont en train de se positionner de plus en plus comme étant un espèce d'espace d'échange social et aussi un concurrent de Slack, de Microsoft Teams, etc., etc. D'ailleurs, il y a maintenant, tu sais, dans les App Store, tu as toujours une espèce de petite ligne qui décrit l'application. Et donc Discord maintenant, c'est parler et traîner sur iOS, tu vois. J'ai pas été vérifié sur Android, mais du coup Discord parler et traîner, la version française, la traduction est vraiment pas folle, tu vois.
Non, c'est pas vrai, top, non.
C'est vraiment pas le truc qui vend du rêve. Après, ce qui est marrant, c'est de voir à quel point ils ont fait évoluer le service et toute la boutique avec l'App Store qu'ils avaient essayé d'intégrer pour acheter ces jeux et concurrencer Steam, tout ça s'est passé à la trappe. L'interface a quand même pas mal évolué, mais on reste assez en dessous de ce qui existe ailleurs pour tout ce qui est la communication interpersonnelle directe. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment parler avec plusieurs personnes à la fois et revenir sur les channels de classiques, c'est un peu chiant, t'es obligé de faire plusieurs clics. C'est vrai que c'est moins pratique que d'autres softs là-dessus, donc j'imagine qu'ils vont bosser sur des changements. Je voulais juste rappeler que c'était rigolo puisque c'est des boîtes qui sont en train de faire des millions de dollars et qui sont comme Slack à la fin, parce que je parlais de plusieurs boîtes quand je disais ça, mais je faisais référence à Slack, qui en fait était à la base des outils pour faire des jeux vidéo, parce qu'en fait Slack et Discord à la base c'était des studios de jeux vidéo qui bossaient sur des jeux vidéo et qui n'étaient pas hyper contents des outils de communication disponibles, donc ils ont fait des outils internes et finalement ils n'ont jamais sorti les jeux et ils ont fait directement ce qu'on appelle un pivot dans le monde des startups pour mettre en avant et vendre leurs solutions de communication. Donc c'est un peu comme ça que les boîtes se sont montées. Comme quoi, hein, ne pensez pas que les mecs se lèvent un matin en se disant « Je vais révolutionner telle industrie
oui, ».
Non, pas du tout. Hein. Les mecs se sont plantés, et puis finalement, ils ont fait « Il reste ce truc-là, dis donc, Bob, tu penses pas qu'on pourrait peut-être le vendre ?» Et voilà, c'est comme ça que la boîte s'est faite, donc ça n'a rien à voir. C'est pas toujours du génie. En tout cas, le génie, c'est de savoir s'arrêter à temps et de retrouver dans les décombres ce qui peut faire un tabac.
Allez, on passe du côté de la culture, et tu voulais nous parler d'un animé.
Oui, parce que y en a marre. Tu vois, je parle déjà pas de K-pop, alors il y a un moment, faudrait respecter quand même. Tu vois. Je voulais parler d'un animé, parce qu'en fait, à la base, il était disponible que quand on avait son pote Bob VHS qui était disponible et qui avait un peu de temps pour vous envoyer des cassettes. Mais maintenant, c'est fini, ce temps-là, c'est disponible sur Netflix. Je me suis dit qu'il était grand temps de vous parler de Doro et Doro. Doro et Doro, c'est un truc qui existe depuis 20 ans en manga. Et oui, c'est sorti en 2000 et la publication a duré jusqu'en 2018, alors pas toujours dans les mêmes magazines parce que apparemment le mec avait le chic pour faire des deals avec des boîtes qui s'arrêtaient en fait entre temps, donc il a fallu un peu ruser. Et pour les fans, il y a une version complète qui prend 23 volumes reliés qui est disponible chez l'éditeur Shugakukan. Mais moi je m'en fiche du manga, il est hyper sympa, tout ce que vous voulez, mais en fait je voulais vous parler surtout de l'anime parce que l'anime a une réalisation hallucinante. Alors pour ceux qui suivent un petit peu les dessins animés japonais et qui aiment bien le le monde de l'animation, c'est pas tellement une surprise parce que la boîte derrière cet animé, c'est MAPPA. Et MAPPA, c'est une boîte qui a été fondée par un mec qui s'appelle Masao Maruyama, qui est en fait l'ancien fondateur du studio Madhouse, qui est un studio mythique. Alors, ils ont pas fait que des trucs extraordinaires, mais on va dire qu'ils avaient un level de qualité. À la base, c'était un peu, il y a quelques studios japonais comme ça qui sont toujours hissés sur des productions vraiment, vraiment impressionnantes. Et Dorodoro, ça fait partie des titres actuels qui utilisent de la 3D, mais pas ce que j'appelle la 3D Netflix, la 3D dégueulasse qui massacre des séries comme Ghost in the Shell ou Saint Seiya, qui est absolument horrible, les Chevaliers du Zodiac version Netflix. Tu regardes le trailer, tu fais pourquoi faire une version jeu PS2, c'est vraiment pas beau. Là c'est l'inverse, on est sur de la 3D maligne, on est sur du texturage vraiment magnifique et sur un univers complètement barré. Alors même dans le manga tout n'est pas expliqué, mais en gros c'est des mages avec des démons, les mages ayant peut-être leur pouvoir des démons, mais ce n'est jamais vraiment expliqué, même dans le manga, c'est pas complètement spécifié quelle est la relation exacte entre les démons et les mages. Et puis, t'as tout en bas de la hiérarchie de la planète, les humains, qui n'ont pas la chance d'avoir des pouvoirs et qui sont souvent utilisés comme des cobayes par les mages, qui ont tous des pouvoirs super débiles. Hein, des persos les plus forts de l'anime et donc du manga, c'est un mec qui te crache dessus sa fumée, parce que les mages, ils ont en fait des espèces de fumée, et quand cette fumée te touche, il se passe des choses, on va dire. Okay. Et donc, ce mec te transforme en champignon. Voilà. Okay. Il te transforme en champignon, mais en plein de champignons. Il te découpe en champignons. c'est chelou, je ne peux pas vous dire autre chose, mais si vous aimez bien les références, il y a des références pop culture, même dans les... Il y a un générique de fin, c'est une espèce de version de Doom dans l'univers du jeu. Tu vois, super chelou, parce qu'il faut savoir que tous les deux ou trois épisodes, je sais plus, les génériques changent en fait à la fin. Les mecs se sont vraiment fait plaisir. Le fond de l'histoire est complètement barré. Mais moi, je veux pas vous dévoiler les personnages, le scénario, etc. Je veux juste que vous lanciez le premier épisode et que vous, dès le générique, vous allez vous dire, mais pourquoi? Caf, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu veux nous parler de ça? Parce qu'en plus, le générique, au départ, c'est une héroïne, enfin, un des personnages principaux qui est en train de faire la cuisine. Et au début, tu sais pas pourquoi, en fait, on te montre ça comme générique de début. C'est un peu bizarre. Évidemment, il se passe plein de choses dans cette cuisine. Donc voilà, vous pouvez aller regarder ça. C'est disponible gratuitement sur Netflix. C'est complètement barré et ça fait du bien au cerveau avec tout ce qui se passe sur la planète actuellement.
Voilà, et puis j'ai été vérifié, c'est bien disponible aussi sur Netflix Belgique.
Ah, tu vois, j'aime bien quand tu vas vérifier pour tes frères d'armes.
Mes compatriotes. Et on passe du côté de la musique. Je voulais vous parler d'Adrian Young. Adrian Young, on en a déjà parlé dans Torréfaction, dans le 126e épisode, quand on vous a parlé de la compilation, enfin, c'est pas une compilation, mais l'œuvre à quatre mains, Jazz is Dead 001, qu'il avait composé donc avec Ali Shaid Mohamed, qui est son binôme habituel, hein, c'est un ancien de Tribe Called Quest. Ils avaient bossé ensemble notamment sur la bande-son de Luke Cage, et on le retrouve ici en solitaire avec un petit album, quatre titres, qui s'appelle Produced By. Alors je dis quatre titres, en fait il y a huit morceaux, il y a les quatre titres chantés, et puis il y a les quatre versions instrumentales à la suite. Produced By, c'est quoi? C'est une série qui a été lancée par Amazon Music et qui propose donc à des artistes en vogue de les mettre en avant, en leur demandant donc de produire du contenu exclusif pour la plateforme. Young, c'était en février de cette année, donc tous les vendredis il a sorti un nouveau morceau inédit qu'on retrouve donc sur ce Produced By, avec des featuring de Black Thought, Estelle Gallant, Georgia Ann Mulroe et Therese Martin. Alors je trouve ça un peu cher, c'est vendu 10$ sur son Bandcamp pour 4 morceaux, alors que ça a probablement déjà été financé en grosse partie par Amazon derrière. Moi, ça me fait un petit peu mal au derrière, comme on dit, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et on va s'écouter un extrait tout de suite, le morceau Home avec Estelle. I was walking fast. Home, donc avec un featuring d'Estelle, c'était Adrian Young sur ce petit EP intitulé Produced By. Et puis je voulais vous parler très vite dans la série C'est trop bien, je suis fan depuis super longtemps, pourquoi j'en ai jamais parlé.
La K-pop, enfin, ouais, enfin la vérité, merci Fasquille.
Presque. Non, pas du tout. Je voulais vous parler de Corridor Crew. En fait, c'est une chaîne YouTube qui émane en fait de Corridor Digital, qui est une société d'effets visuels qui est basée à Los Angeles. Et c'est une société qui est très active sur la toile depuis 2010. Ils ont fait un paquet de vidéos virales. Et tu te souviens probablement de leur fameuse parodie de Boston Dynamics avec ce robot qui était maltraité et qui finissait par se rebeller. Ouais. Bah, c'était eux, en fait. Donc, régulièrement, en fait, ils font des petites vidéos comme ça, mais ils font aussi des focus, en fait, sur les effets spéciaux au cinéma, en les critiquant, souvent avec des gens du milieu. Il y a un épisode qui parle d'Avengers Endgame, notamment avec Matt Aitken, qui est un des pontes de Weta Digital et qui a donc bossé sur le film. Ils font aussi des critiques de cascades et ils invitent donc des cascadeurs hollywoodiens qui viennent commenter et tout ça donc en expliquant comment ça fonctionne en fait. Donc ils te montrent des effets spéciaux, ils essaient de deviner comment ça a été fait et puis derrière ils te montrent des petits making-of pour te dire voilà en fait ils ont procédé avec telle technique et telle technique. Donc c'est vraiment super intéressant quand on s'intéresse au cinéma. C'est des vidéos assez courtes qui font 15 minutes donc ça se mate facilement pendant la pause déjeuner. Et puis voilà, à côté de ça ils font aussi plein de petites productions perso. Je vous invite à aller voir donc la chaîne Corridor Crew, c'est sur YouTube et je vous linkerai bien évidemment tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast. On passe du côté de la tech avec une vilaine petite saloperie pour macOS.
Oui, le Mac, il n'y a pas de virus, tout va bien. Oui, sauf quand vous êtes débile. Alors, pourquoi j'insulte directement mes chers amateurs de pommes? Vous savez, hein, je travaille sur Macintosh, je suis avec vous, tout va bien. Donc non, il faut vous prévenir en fait, surtout. Ça s'appelle Evil Quest. Alors Evil Quest, j'aime beaucoup parce que voilà, on a l'impression que c'est un nouveau MMO qui vient de sortir.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Mais pas du tout. Donc c'est un nom qui a été donné à un ransomware qui en fait vise spécifiquement les utilisateurs de macOS et qui évidemment ne s'installe pas par magie car vous savez macOS est très bien protégé en vrai. Donc pour pouvoir l'installer, il va vraiment falloir l'aider et comment ils ont réussi à contourner toutes les petites astuces mises en place par Apple, bah comme d'habitude et d'ailleurs de la même manière hein, sur Windows qui est largement sécurisé les trois quarts du temps, eh bien évidemment, il vient se planquer dans des softs piratés. Quelle surprise! Et ça me fait beaucoup rire parce que du coup, un des softs qui est connu pour être infecté avec cette saloperie est une version pirate d'un soft qui s'appelle Little Snitch. Little Snitch étant un firewall très avancé qu'on utilise sur macOS, que je paye avec mon argent depuis des années. Donc si vous le voulez, achetez-le. Parce que si vous l'installez en version pirate, non seulement vous allez vous faire infecter, mais en plus du coup, le concept de pirater un truc qui a accès à ta couche réseau, enfin, faut aimer se faire du mal quand même, tu vois. Donc, évidemment, méfiez-vous de ce genre de saloperie. Il y a plusieurs softs qui ont été déjà identifiés comme étant des vecteurs pour ce soft, pour ce ransomware, dont une app de DJ d'ailleurs, qui s'appelle Mixed in Key, que je ne connaissais pas.
Oui, c'est le truc qui analyse tes morceaux, en fait, et qui te dit, voilà, c'est dans tel type d'harmonique, donc tu peux le mixer avec tel autre morceau ou tel autre morceau et ça sonnera pas faux.
D'accord. Bon bah voilà. Donc bah parfait. Donc n'utilisez pas une version pirate parce que ça a l'air très bien. Mais si vous le voulez, achetez-le comme d'habitude. Donc voilà, faut faire très très attention. Le truc a l'air assez violent. Évidemment, pour se prémunir de ça, ne pas pirater, avoir des backups et faire en sorte que les backups soient safe, ça me paraît la base. Donc normalement, vous avez si vous lisez Geekzone et que vous écoutez Torréfaction, vous avez les bases quand même, tu vois. Donc je pense que vous n'allez pas vous faire avoir, mais là c'est plutôt pour prévenir vos amis utilisateurs de Macintosh qui n'ont pas forcément votre background et de leur dire fais attention au cas où tu pirates. Non, moi je pirate jamais. Oui, mais au cas où quand même. Fais très attention, car ce truc-là a l'air de se propager à la vitesse de la lumière. Et puis, plus les mecs vont s'apercevoir qu'il fonctionne, plus ils vont évidemment l'intégrer dans d'autres softs pirates. Donc, les vecteurs vont se multiplier. Et il est assez... je vous ai linké un papier d'Apple Insider sur le sujet, mais il faut savoir que vraiment, au-delà du fait que c'est un ransomware qui va crypter vos données, vous faire chier, etc., il est aussi extrêmement violent dans le sens où il est capable d'espionner ce que vous faites sur votre bécane priori. Alors, j'ai pas toutes les infos et les différents papiers que j'ai lus sont pas tous d'accord sur les capacités du soft. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Malwarebytes l'a déjà dans son viseur et sait le reconnaître, ce qui devrait être le cas de pas mal de soft au moment où vous écouterez ce podcast. Et il y a un soft gratuit pour savoir si vous avez déjà été infecté qui a été fait par le mec qui l'a trouvé. Donc, merci à lui. On pouvait savoir si vous êtes safe et après vérifier que tout se passe bien.
Et on termine cette rubrique tech avec des news de Windows 10, alors que moi j'ai toujours pas reçu la nouvelle mise à jour là, il parle déjà de la suivante.
C'est ça, mais ben non plus, je te rassure. Moi non plus, alors moi je me suis dit peut-être parce que AMD, tout ça, est-ce qu'ils vérifient un truc, bah, mais pas du tout.
En même temps, ils
fait.
Ont eu tellement de problèmes avec les précédentes que là je les comprends, ils sont super prudents quoi. Ils oui, attendent oui. vraiment que tout soit ultra ouvert pour te l'envoyer et du coup j'ai pas forcé parce que je me dis s'ils la font passer qu'il y a probablement un petit souci.
Oui, non, mais en plus là le truc dit clairement, vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc on parle de la 2004 je crois au niveau numéro de version. Donc là on parle de la prochaine donc qui est déjà pré-annoncée avec des petites nouveautés qui sont plutôt d'un niveau cosmétique que vraiment des gros changements, mais il y a des retouches au niveau du menu start, le alt tab a été un petit peu repensé et on nous annonce une nouvelle disposition pour la barre de menu la barre de tâches pardon. Et puis tout ça va dans une direction qui a déjà été amorcée et un des trucs qui va disparaître. Dans ma boule de cristal, je vois, c'est les lifestyles dont personne se sert depuis depuis Windows. Enfin, ouais, je crois que ça a débarqué avec Windows 8, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et tout le monde s'en fout de ce truc puisque ça n'a jamais été très pratique de mettre beaucoup d'informations dans ces petites cases qui sont censées être dynamiques sur votre menu.
Bah, c'est-à-dire que moi j'ai la météo et mon agenda et c'est très pratique, mais effectivement, comme personne développe de trucs pour ça, t'as pas d'autre application qui peut s'interfacer facilement. Voilà. Donc du coup, ça sert effectivement pas à grand chose.
À part les trucs de news, en fait, à part des quelques trucs Microsoft, j'ai jamais rien vu de fabuleux, des to-do list qui ont essayé de faire des choses, mais dès que tu mets quatre mots, ça rentre plus. Enfin bon, vraiment, c'était pas très pratique. Donc ça, c'est en train de dégager, ils sont en train d'alléger le menu pour le rendre plus agréable à l'œil et moins agressif, donc avec des tons un peu plus, on vient vers des trucs un peu transparents, etc. Un peu plus léger, a priori, ça me fait marrer, puisque quand on voit ce que prépare Apple pour la suite, j'ai l'impression que la tendance est un peu vers ce retour à la transparence, des menus un peu plus sympas. Alors attention, il y a des choses qui ne font pas forcément plaisir et qui feront couler beaucoup d'encre numérique, c'est la nouvelle gestion du Alt-Tab dans Edge Chromium. Nous, on aime bien Edge Chromium, malgré
ça sent encore la peinture fraîche, on va dire.
Ouais, et puis apparemment, ils ont 2-3 problèmes avec la vie privée encore chez Microsoft. Pour l'instant, le jury reste en délibéré pour savoir si on vous le conseille ou pas, mais pour l'instant, j'aime bien. Mais en tout cas, le fait est que pour le Alt-Tab, ils se sont dit « Eh, ça serait génial si on vous mettait tous vos tabs ouverts dans le Alt-Tab de Windows.
» J'en connais qui ont 50 tabs ouverts qui vont être contents.
C'est ça, quelle idée de merde. Donc évidemment, c'est vraiment une très mauvaise idée et j'espère qu'ils vont pas l'intégrer d'office, mais de toute façon on sait déjà qu'il y a un mode pour garder le mode classique en fait tout bêtement, donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant moi j'ai rien vu d'extraordinaire. Toi t'avais repéré d'autres choses, il me semble.
Non, c'est un truc tout con en fait, mais qui me rend fou depuis le début de l'apparition donc de cet outil de notification dans Windows, c'est que en fait quand tu le mets en ce qu'ils appellent le focus assist, donc c'est un mode spécial où tu dis voilà je veux pas être dérangé sauf éventuellement par telle ou telle app.
Parce que t'es en train de faire un podcast, par exemple.
Voilà, par exemple, et toutes les notifications, tu les mets dans une barre, j'irai les lire après, et du coup, t'as un petit affichage qui s'allume, en fait, pour te dire, j'ai des notifications. Sauf que quand tu passes en mode focus assist, par défaut, il va t'envoyer un message pour te dire, t'es en mode focus assist, donc je m'occupe de tout, t'auras pas de notification, mais du coup, t'as une notification. Et ça, moi, ça me rend fou, en fait, ça trigger mes OCD, comme je disais dans la conduite.
Bah, typiquement, le truc, c'est qu'en plus, t'es obligé de le dire, parce que pour les gens qui sont normaux, ils vont se dire « Pourquoi j'ai plus de notification ?» Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de les prévenir parce que les gens vont le mettre et après ils vont l'oublier en fait. Ou tu reprends la main, c'est pas top. Il y a plusieurs personnes sur le PC. Donc quelque part, c'est horrible parce que je suis hyper d'accord avec toi. Et en même temps, je me dis... Ah ouais, mais si tu préviens pas les gens, on court à la catastrophe.
Finalement, apparemment, ils ont tranché, donc ils vont supprimer cette notification superflue. Donc, si tu verras que quand ton petit icône n'est pas allumé, c'est qu'il n'y a pas de notification. Donc,
voilà, si le menu sera sûr.
Voilà.
Si le menu est mieux foutu, après, c'était peut-être un problème d'ergonomie.
Ouais, c'est possible, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a des gens qui oublient, et puis après, c'est bien de le rappeler de temps en temps. Mais là, ça me rendait fou. J'ai le même souci dans un outil qu'on utilise pour communiquer avec notre oncle Bob. VHS, avec NZBGET, en fait, quand tu nettoies le log de message, il te rajoute un message pour te dire « J'ai nettoyé tous les messages. » Je trouve ça fabuleux. «
J'ai mangé tous les chocolats. »
Moi qui aime bien avoir mes petits compteurs à zéro, tu vois, ça me rend fou. Enfin bref, voilà.
Ouais, mais je connais, je comprends. Je suis avec toi, ne t'inquiète pas, ne consulte pas tout de suite. Nous, on aime bien quand c'est carré et des fois, ça te dit quand c'est carré et non. Non, tais-toi en fait, je le sais, je viens de cliquer sur le bouton, laisse-nous tranquille.
Et c'est la fin de ce 138e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end à tous, bon week-end CAF.
Mais bon week-end à toi, écoute, hein, on va regarder s'il y a des choses à aller mettre dans la collection du backlog.
Non, moi je vais les écrire, et puis je voulais rappeler l'existence du Patreon aussi, patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous donner des petits sous. Ça fait toujours plaisir, surtout par les temps qui courent. Pour les freelances, c'est pas facile. Hein.
Je ne vois pas de quoi tu parles. Apprenez-moi à faire un noeud coulant, sinon je ne sais pas.
Carrément. Et c'est sur cette note positive qu'on se quitte. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao.
À la plus. Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.